et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Nous recevons ce soir sur France 24 RFI Marc Fesneau, ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors demain, le Premier ministre va annoncer des mesures sur l'immigration. Il sera question de quotas d'immigrés économiques par secteur d'activité. Est-ce donc la fin d'un tabou ? Quand on sait que la droite en rêvait, mais que dans le fond, ça va être Emmanuel Macron qui va le faire, pourquoi s'y atteler aujourd'hui ?
Enfin, c'est pas la fin d'un seul tabou, c'est la fin d'un tabou général qui était qu'on n'arrivait pas à poser dans le débat public les questions migratoires. Or, période de crise, comme celle qu'on a pu vivre il y a 4 ou 5 ans, c'était l'objet du débat qui a eu lieu au mois d'octobre sur les questions migratoires. L'idée était d'ouvrir l'ensemble des champs sur la question des migrations, la question des pays d'origine, de l'aide au développement, la question de comment on traite ceux qui soit demandent le droit d'asile ou viennent pour d'autres raisons sur nos frontières, si je peux dire. Et puis trois, une fois qu'ils sont là, comment on met en œuvre des mécanismes, soit de reconduite à la frontière, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de règles, et deux, pour ceux qui sont là et qui ont, pour différentes raisons, je pense au droit d'asile, sont là, comment on fait en sorte que l'intégration soit la mieux réussie possible.
Vous êtes en train de dire que c'est une façon de maîtriser l'immigration aussi ?
C'est une façon de la maîtriser et de la rendre plus crédible et d'une certaine façon plus humaine. Il y a plusieurs champs. Vous parlez on peut en dire un mot, des affaires d'immigration dite professionnelle. Mais il y a l'aide publique au développement. Le président de la République s'est engagé à augmenter de plus d'un tiers l'aide publique au développement. Pourquoi ? Parce qu'il faut aider les pays à se développer. Et c'est un mode d'action de la France, comme d'autres pays européens d'ailleurs, et d'autres pays dans le monde, pour faire en sorte que ces territoires puissent se développer, que l'immigration économique de première intention puisse disparaître. Deuxième sujet, il y a la question du traitement des flux migratoires. On est le pays aujourd'hui qui a le plus de demandes d'asile, avec des demandes d'asile qui viennent de tous horizons, de gens qui viennent de Syrie, de gens qui viennent d'Afghanistan, des gens qui viennent parfois aussi de Géorgie et d'Albanie, et avec des délais qui sont trop longs.
D'ailleurs, enfin 85%, je crois. Enfin, c'est en trois positions, je crois, qu'il y a l'Afghanistan,
c'est
la Géorgie et l'Albanie.
Non, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que le trio de tête est celui que vous déterminez, mais c'est pas 85% des demandes d'asile.
J'entends
simplement, on avait plusieurs problèmes qui ne sont pas tous résolus, disons les choses comme elles sont. C'était une longueur de traitement des dossiers qui faisait qu'on laissait s'installer les gens et que un an, 18 mois, parfois 24 mois après, et c'est ce dont on a hérité en partie. Alors après, on est en responsabilité, c'est à nous d'essayer de trouver des solutions, et qui faisait que les gens, une fois qu'ils étaient installés pendant 24 mois, on disait vous êtes déboutés du droit d'asile. Et la politique de reconduite à la frontière était extrêmement compliquée dans ces conditions-là. Et donc, deuxième sujet, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on fasse droit au droit d'asile. C'est comment dire, chez l'honneur de la France, quand des gens sont poursuivis pour des raisons politiques, religieuses, d'orientation sexuelle ou autre, d'être une terre d'accueil. Et donc ça, c'est un deuxième sujet qu'on essaie de traiter en ayant une politique plus claire d'intégration pour ceux qui arrivent et qui sont dans une demande de droit d'asile, qui puissent bénéficier de l'ensemble des dispositifs et une fois qu'ils ont le droit d'asile, qu'ils puissent par exemple rentrer dans la filière professionnelle. Troisième sujet que je veux évoquer devant vous, c'est la question effectivement de l'immigration professionnelle. Il y a une immigration professionnelle qui existe. D'ailleurs, il y a une immigration professionnelle des Français à l'extérieur des frontières. Je ne sais plus combien c'est, mais il y a beaucoup de Français, des centaines de milliers de Français, non, c'est plusieurs, plutôt des millions, qui travaillent à l'extérieur des frontières. L'idée, c'est de regarder lucidement les choses. Je ne sais pas si c'est une revendication de la droite ou de la gauche. À la limite, peu importe. La question, c'était de faire en sorte qu'on puisse déterminer un certain nombre de métiers sur lesquels il y a une pénurie. Il n'y a pas une pénurie.
Alors, justement, oui.
Conjoncturelle, parfois une pénurie structurelle. On connaît des tas de métiers dans la restauration, dans le bâtiment, où on voit bien qu'on a une pénurie de métiers.
Et on va en parler parce que ça
un mécanisme de substitution, mais de faire en sorte qu'on puisse déterminer chaque année, dans le cadre d'un débat, quels sont les métiers en tension, quels peuvent être les besoins des entreprises, et qu'on ait des choses claires qui permettent au fond, d'ailleurs, aux gens de venir parfois travailler 2 ou 3 ans, et puis après, s'ils le veulent, de repartir dans leur propre pays d'origine.
Mais est-ce que ces mesures que va annoncer demain Édouard Philippe viennent en quelque sorte répondre à une inquiétude que vous auriez senti chez les Français, une inquiétude relative à l'immigration en général, et pas seulement aux 13% que représentent les 30 et quelques mille personnes qui sont concernées par ce qu'on appelle l'immigration économique. Pour le reste, c'est 260 000.
Oui, les étudiants...
Est-ce que du coup, il ne s'agit pas d'apporter une réponse globale plutôt que de segmenter ?
Mais vous avez raison, c'est la volonté, d'ailleurs vous verrez demain le Premier ministre s'exprimera, et l'ensemble des ministres, ce n'est pas une politique seulement sectorielle. Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn, le ministère des Affaires étrangères, Amélie de Montchalin, parce qu'il y a des questions aussi d'harmonisation aux frontières, le ministère de l'Intérieur, évidemment, mais c'est aussi la politique de logement, tout ça. Et donc la volonté qui a été celle du Premier ministre, du gouvernement, ça a été de faire en sorte qu'on ait une politique globale, c'est ce que vous dites, une politique donc interministérielle, parce que c'est un tout, cette question-là. Vous ne pouvez pas parler de flux migratoire si vous ne parlez pas d'aide au développement, si vous ne parlez pas d'harmonisation des politiques migratoires au niveau européen, si vous ne parlez pas de solidarité européenne. Mais vous ne pouvez pas en parler non plus si on n'a pas nos propres mécanismes de régulation qui fonctionnent. Et si une fois que les gens ont le droit d'asile, on ne les met pas dans des situations d'intégration profonde. Et donc c'est une volonté, je ne sais pas si c'est une inquiétude des Français, je pense que la question migratoire est toujours source d'angoisse parce qu'elle émerge souvent au moment des grands flux migratoires, c'est ce qu'on a eu il y a 4 ou 5 ans. On n'est pas dans cette période-là, on n'est pas dans une période de tension migratoire. Simplement, il faut se doter des outils nationaux, européens, qui nous permettront, parce que c'est des phénomènes qui peuvent revenir pour des raisons de géopolitique, des raisons climatiques.
Mais est-ce qu'il y aura des moyens pour le faire ? Est-ce qu'il y aura des objectifs chiffrés ? Et est-ce qu'il y aura une liste, justement, des métiers ?
Ah, il y aura une liste des métiers. Alors, Muriel Pénicaud et le Premier ministre l'expliquaient très bien. C'est, on n'a pas revu la liste des métiers en tension, comme on dit, depuis 2008, c'est-à-dire depuis 11 ans. Depuis 11 ans, le marché du travail a profondément évolué, les besoins ont profondément évolué. Donc, la volonté, c'est que chaque année, on puisse regarder les métiers en tension et qu'après, on puisse adapter éventuellement les autorisations à venir pour des raisons professionnelles.
Ça va conduire, plus ou moins de fait, à une immigration par pays ?
C'est une immigration par compétence, donc c'est pas par mais les métiers ne sont pas les pays.
Oui, oui. Est-ce qu'on sait si tel ou tel pays a plus de compétences?
Je ne crois pas qu'on puisse
tel...
le dire comme ça. Non.
Ça pourrait être un outil pour faire de l'immigration par pays sans le dire.
Non, mais moi je vois pas comment on pourrait dire quand vous avez besoin de gens qui travaillent dans la restauration. J'aurais du mal à vous répondre sur. Je pense que c'est plutôt une immigration de tel ou tel pays. Quand vous avez des sujets sur la construction. Je crois pas que ça puisse être, quand bien même, et d'ailleurs c'est pas ce que nous voulons, pour ceux qui voudraient en faire un outil de cette sorte-là, que ça puisse être possible.
Alors Marc Fesneau, vous parliez de métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui ne trouvent pas d'employés à engager, mais est-ce que c'est pas avant tout un problème de formation chez nous, qu'on n'arrive pas à former des gens dans un pays qui a quand même un chômage...
Mais l'idée n'est pas un mécanisme de substitution en disant c'est des emplois qui pourraient être pourvus
par des ressortissants.
J'essaie de répondre par cette voie-là.
Oui.
La question, c'est qu'il y a des métiers qui structurellement sont en tension et qui, quand bien même on fasse de la formation, et puis on est dans un pays libre, les gens s'orientent comme ils le veulent et ils ont plutôt envie de travailler dans telle ou telle branche parce qu'elles sont plus attractives que d'autres.
Enfin, par exemple, on prend l'exemple des informaticiens, des ingénieurs informaticiens. Je crois qu'il y a 90 000 demandes, il n'y en a que 60 000 qui sont remplies. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont au chômage, qui voudraient
devenir
formateurs ?
Mais dans le même temps, on a une politique, ça a été l'objet de la loi de réforme de la formation professionnelle. On essaie de former un certain nombre de Français, de salariés ou de gens qui sont en formation initiale pour essayer de répondre à ces besoins de tension. Mais parfois, sur les sujets informatiques, par exemple, la demande galope un peu plus vite que la capacité éventuellement de formation.
Alors, on va passer peut-être...
Non, effectivement, ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes, quoi, enfin, c'est...
Oui, avec les forces de l'ordre, donc, il y a eu une multiplication de guet-apens, notamment ce week-end, donc, à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. Voici ce qu'avait déclaré, à ce propos, le Premier ministre Édouard Philippe, qui était en déplacement sur le terrain, mais qui s'est ravisé aujourd'hui sur le thème qu'il a employé. On l'écoute et on en reparle.
Je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
Voilà, à l'Assemblée nationale cet après-midi, le Premier ministre a dit finalement qu'il aurait préféré parler d'actes criminels. Donc il y a un petit retard à l'allumage. Est-ce qu'on n'a pas là un président de la République, Emmanuel Macron, qui est parfois trop cash, et un Premier ministre qui est parfois un peu trop prudent ?
Non, mais les deux peuvent s'aligner. D'abord, on peut être, je crois que le président du département des Yvelines a parlé de crétin, on peut être imbécile, irresponsable, crétin,
mais là, c'est...
et délinquant. Oui. Oui. Et criminel. Ça peut se cumuler, malheureusement. Et dans un certain nombre de cas, ça se cumule. Le Premier ministre n'est pas un adepte, d'ailleurs le Président de la République non plus, des rodomontades qu'on a pu avoir dans des années précédentes où on disait, où des mots divers et variés avaient été employés. Et finalement, le Premier ministre, le gouvernement, il est à la tâche pour essayer de résoudre les problèmes. C'est l'objectif de la police de sécurité du quotidien. C'est l'objectif du renforcement des moyens de police. On essaye de faire, et il faut le faire avec la lourdeur de la tâche qui est celle d'un certain nombre de quartiers qui sont passés hors de contrôle depuis des années et sur lesquels il faut qu'on arrive à démanteler des réseaux.
Mais Marc Fesneau, par exemple, quand il y a...
Et à mettre hors d'état de nuire des délinquants.
Un gang qui braque des banques, il est quand même assez peu courant qu'on entende parler d'une bande d'imbéciles.
Oui.
Or là, le message que veut afficher le gouvernement, c'est la fermeté. Mais comment peut-on défendre cette fermeté si on emploie des mots qui minorent à ce point soit la gravité des faits, soit la responsabilité de ceux qui les ont commis ?
Non, mais vient se doubler sur, si on veut comparer, quand vous êtes à l'attaque d'une banque, vous êtes avec un objectif qui est assez distinctif pour tout le monde, qui est celui d'aller prendre des billets. Enfin, je comprends bien le mécanisme. Quand vous êtes dans des actes de dégradation volontaire de ce type-là avec l'incendie, c'est de celui-là dont il parlait, c'est de l'incendie d'un centre culturel, si j'ai bonne mémoire, non seulement vous faites un acte criminel, mais en plus vous faites un acte qui va nuire à la population qui vit sur ces territoires. Et c'est doublement fautif, si je peux dire. Et
donc
c'est doublement répréhensible.
Donc vous pensez qu'en effet, ce qui caractérise le mieux les auteurs de ces actes, c'est le mot « imbécile » ?
Non. Ça peut être cumulatif, je vous le dis.
Oui, mais il faut faire des choix.
Non, mais
ou alors
le Premier ministre d'ailleurs. Non, mais c'est pas une hiérarchie. Parce que je trouve qu'on s'attache trop aux mots. Enfin, peut-être que vous avez raison. Les mots ont une importance dans le monde politique et dans le monde dans lequel on vit. Mais je ne crois pas que ça disqualifie la volonté qui est la nôtre et la volonté ferme. Parce que pourquoi à Chanteloup-les-Vignes il y a des phénomènes et des guet-apens qui sont construits, c'est parce qu'on est en train de s'attaquer dans les Yvelines à un certain nombre de réseaux de drogue, plus 50% je crois de mémoire de réseaux de trafiquants qui ont été démantelés dans les Yvelines. Et donc on dérange du monde. Si on dérange du monde, c'est qu'on est en train de faire des choses qui sont utiles. Et ça, c'est pas une politique mollassonne, c'est pas une politique laxiste, c'est une politique de reconquête, sans faire de mousse, sans faire d'éclat, mais il faut le faire.
Reconquérir mètre carré par mètre carré, a dit Christophe Castaner aujourd'hui. Est-ce que vous croyez vraiment que ce genre de propos, qu'on a tellement entendu dans la bouche de tellement de ministres de l'Intérieur, est-ce que ça a encore la moindre crédibilité, ce genre de propos ?
Manifestement, pour les délinquants auxquels on s'attaque, ça a une crédibilité, puisque une partie des actes qui ont été commis dans les départements des Yvelines, c'est aussi pour ce motif-là. Je ne crois pas que de le dire comme ça, ça soit une rondomontade excessive. Oui, il y a des quartiers où il faut mètre carré par mètre carré. Il n'y a rien de, comment dirais-je, d'une rondomontade à employer ces mots-là, parce que c'est la réalité que vivent un certain nombre de gens. Quand vous avez des quartiers qui sont complètement tenus par des gens qui tiennent un réseau de trafiquants de cannabis ou autre trafic de toute nature, vous avez quand même... s'il n'est pas illégitime de dire que c'est une forme de reconquête qu'il faut avoir, une reconquête républicaine, si vous voulez.
Est-ce qu'il avait raison, Gérard Collomb, vous souvenez, quand il est parti, il avait fait ce discours, il avait dit, dans certains quartiers, on vivait côte à côte et désormais, on va vivre face à face.
Oui, alors c'est on est les uns et les autres à avoir constaté que depuis des années, je crois qu'on est...
Des années, oui.
D'ailleurs, je pense que collectivement, et c'est ce qu'a fait le maire de Chanteloup-les-Vignes, c'est ce qu'a dit aussi le président du département des Yvelines, il faut qu'on arrive à regrouper les différentes institutions, la police, la justice, l'enseignement, les collectivités locales et l'État. Et au-delà de s'envoyer des invectives pour dire c'est la faute de l'un ou de l'autre, et vous ne me voyez pas ce soir dire c'est la faute des précédents, il faut se mettre au travail, c'est ce qu'on essaie de faire, avec des moyens qui permettent...
Il y a le problème de la réponse pénale aussi, qui ne suit pas.
Oui, enfin, le Premier ministre a clairement indiqué, et c'est les instructions qui peuvent être données dans ce domaine, de faire en sorte qu'on poursuive à chaque fois les actes qui sont commis.
Alors, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre sur un autre sujet, parce que dans la foulée de tous ces événements, évidemment, il y a eu des discussions assez animées à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, Marine Le Pen a interpellé le Premier ministre. On entend assez régulièrement les dirigeants de l'opposition dire que Emmanuel Macron cherche à installer dès maintenant le duel face à Marine Le Pen à la présidentielle de 2022. Écoutez comment Édouard Philippe a répondu aujourd'hui à Marine Le Pen, qui donc l'interpellait dans l'hémicycle.
Vous avez évoqué beaucoup de sujets dans votre question, dont je comprends qu'elle était d'une certaine façon plus adressée au président de la République qu'elle ne l'est au Premier ministre. Mais la Constitution est ainsi faite que c'est le Premier ministre qui va vous répondre et il arrivera peut-être, je ne sais pas, qu'un jour vous ayez l'occasion de débattre à nouveau avec le président de la République. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas préempter ces moments.
Voilà, Marc Fesneau, ça semble tout de même assez clair aussi là dans la bouche du Premier ministre. Lui aussi, en quelque sorte, anticipe l'affrontement Marine Le Pen et Emmanuel Macron en 2022. D'ailleurs, on entend des réactions assez étonnées sur les bancs de l'Assemblée nationale.
On va essayer d'être très clair sur le sujet. Ce n'est pas nous qui avons mis en situation de deuxième tour en 2017 Marine Le Pen. Je rappelle d'ailleurs que beaucoup ont oublié qu'en 2002, déjà son père avait été en situation d'être au deuxième tour.
Non, vouloir qu'elle soit là de nouveau en 2022, ça pourrait être un calcul politique.
Oui, non. Deux, les sondages valent ce qu'ils veulent à 2 ans et demi d'une élection présidentielle, mais on voit bien que l'étiage de Marine Le Pen est un étage très haut. Trois, on essaie de s'attaquer au fond des problèmes, les questions de délaissement territoriaux, les questions de sécurité, un certain nombre de questions qui ont été laissées de côté, on est un gouvernement qui essaie de réformer. Nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que cette tentation populiste et parfois extrême que peut incarner Marine Le Pen régresse. Simplement, les faits sont les faits. Et donc reconnaissons que c'est d'ailleurs, nous ne sommes pas le seul pays concerné, que ces tentations populistes ou extrêmes, elles existent dans tous les pays. Donc c'est pas qu'on le souhaite, c'est que les faits imposent l'idée que c'est là que se mène le combat. Par ailleurs, moi je suis profondément démocrate, je suis très attaché au pluralisme. Moi je me réjouirais toujours quand il y aura des oppositions à droite et à gauche dans un champ plus républicain qui puissent s'exprimer et porter une alternative. Si aujourd'hui nous avions un sondage qui portait une autre formation politique à l'étiage qui est donné dans les sondages, vous m'interrogeriez en disant, vous mettez en scène quelque chose. Moi, je ne souhaite pas qu'on soit, d'une certaine façon, dans cette configuration-là. Nous, notre responsabilité en 2017, les Français, au fond, ils ont dit, il y a une crise très profonde et il y a un désenchantement politique qui a produit à la fois la volonté d'un changement plutôt positif, plutôt ambitieux au travers d'Emmanuel Macron, et deux, qui a mis en confrontation face à nous Marine Le Pen. C'est ça ce combat-là qu'il faut gagner, Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre.
Marc Fesneau, on apprend à l'instant que François Bayrou, Marielle de Sarnez et Madame Goulard vont être convoqués par la justice en vue d'une mise en examen sur l'affaire des emplois fictifs. Peut-être une réaction.
Moi, je me tiens à deux choses auxquelles je me suis toujours tenu, donc je suis très à l'aise pour les...
La présomption d'innocence.
Non, la première chose, c'est... C'est un article d'un journal du soir qui annonce ça, donc je ne peux pas commenter les articles sur des procédures judiciaires en cours. Je crois relate, si j'ai bien compris, cet article. Deux, je suis ministre. Et quand vous êtes en situation de ministre, même quand je ne l'étais pas, il y a quelque chose que je respecte, c'est la présomption d'innocence et la séparation des pouvoirs. Il faut laisser faire la justice. Vous connaissez, en tout cas, beaucoup connaissent les liens de fidélité, d'amitié que j'ai pour François et Maria. Je sais ce que je leur dois et ce que nous leur devons pour beaucoup d'entre nous. Il faut laisser faire les procédures judiciaires. Et François Bayrou, Marielle...
C'est un engagement, mais c'est pas seulement un engagement
d'avoir été ministre ou d'avoir été député. C'est un peu plus profond que ça, les relations qui me lient à François et à Marielle. Et donc, au-delà de ces relations-là, il ne m'appartient pas de commenter des procédures judiciaires. Si je venais sur un plateau dire « voilà ce que j'en pense, voilà ce que j'en dis, voilà ce que je voudrais en dire », et vous seriez les premiers, vous auriez raison à dire « mais de quoi se mêle-t-il ? » Et si on veut que la justice travaille sereinement, que ceux qui ont besoin d'être entendus par la justice, qu'il y ait des procédures contradictoires, se fassent dans des bonnes conditions...
C'est l'actualité, on vous pose la question...
Mais je pense que dans ces moments-là, on a des moments d'une autre nature, où les institutions sont en permanence chahutées. Je ne participerai jamais du chahut des institutions. D'accord. Il faut respecter la présomption d'innocence, le droit... du contradictoire et le process judiciaire.
Je voudrais dire un mot du président français qui est en Chine. Donc, il a voulu jouer la carte de l'unité européenne. Est-ce que vous avez 30 secondes pour répondre ? Est-ce qu'il profite, le président, de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine ?
Non, je vais vous dire, personne ne profite de la guerre économique. D'ailleurs, le ralentissement de la croissance, c'est la guerre commerciale qu'a déclenché le président Trump. Je pense que le président Macron essaye... à la fois d'incarner ce que sont les intérêts de la France, deux, pour la première fois, il a fait un déplacement avec des partenaires européens pour montrer que c'était l'Europe, et trois, le multilatéralisme et l'intérêt du commerce.
Ce mardi, vivez sur RFI.